Il est 15h et nous recevons François Malabave pour une émission spéciale.
Bonjour James, bonjour à tous. Effectivement, une émission très particulière puisque nous allons parler d'un sujet ô combien important. Il s'agit de biodiversité et je ne suis pas seul pour pouvoir en parler. C'est pas moi d'ailleurs qui vais en parler, c'est surtout des jeunes élèves notamment du collège d'Ops dans le Var. Et j'ai le plaisir d'accueillir le principal du collège d'Ops dans le Var, du collège Henri Nance. Il s'agit de Frédéric Julien, vous êtes principal de ce collège, bonjour.
Bonjour François, merci de nous accueillir dans les studios de Fréquence Mistral et merci d'avoir été partenaire de notre opération.
Nous allons en parler pendant presque une heure avec vous justement et avec l'enseignante qui s'est occupée de ce projet. Elle est à côté également, Chloé Sérine. Bonjour Chloé.
Bonjour François, bonjour à tous.
Nous allons évoquer ce dossier avec vous. Frédéric, Julien, d'abord dans un premier temps, votre collège, c'est un collège rural ?
C'est un collège rural. Alors c'est même un collège dans le Var, c'est même le seul collège de montagne, zone de montagne du Var. Donc nous avons des spécificités agricoles et c'est pour ça que nous sommes très très concernés pour les problématiques liées à la biodiversité.
Alors justement ce dossier, c'est le dossier biodiversité, ça a été fait notamment avec le parc naturel régional du Verdon avec qui vous entretenez de bons rapports.
Tout à fait. Sans le parc naturel du Verdon, nous n'aurions pas pu mener à bien ce projet, mais l'enseignante en parlera beaucoup mieux que moi, Madame Sérine en parlera beaucoup mieux que moi. C'est un projet extrêmement ambitieux qui concerne tous les élèves des classes de 5e et sans l'aide de nos partenaires, donc en particulier du parc naturel, mais aussi du conseil départemental du Var et aussi de vous-même ainsi que d'autres financeurs, on n'aurait pas pu le mener à terme.
Alors c'est vrai que c'est un sujet qui est, je le disais, très important, un sujet d'actualité aussi, puisque on sait que malheureusement des espèces animales disparaissent, on a agressé notre terre. C'est un sujet qui est évoqué régulièrement dans votre collège ?
Alors, ça commence, mais j'allais dire, notre collège était déjà précurseur. Grâce à des équipes enseignantes particulièrement motivées et impliquées sur ces questions de biodiversité, c'est des questions qui nous impactent, de toute façon qui nous impactent tous. Et donc forcément, l'éducation nationale se devait, à un moment donné, de prendre la balle au bon et d'essayer de maximiser les connaissances des élèves à propos de ces questions-là.
Parce que vous formez des citoyens aussi et qu'à plus forte raison dans une zone rurale, on doit faire attention à ne pas balancer n'importe quoi dans la nature et c'est un petit peu le thème de cette émission. Alors Chloé Sérine, vous êtes l'enseignante qui avait préparé ce dossier à Ops. Comment est-ce que vous avez procédé avec vos élèves ?
Donc en fait c'est grâce au parc que tout a commencé, c'est eux qui nous ont démarché, ils nous ont proposé justement des financements pour réaliser un projet qui n'avait pas de forme en fait. Ils nous ont laissé libre cours, enfin disons que ça a été une co-construction avec eux pour construire ce projet. Et donc nous avons réfléchi en fonction de ce qu'on pouvait faire avec les programmes, de ce qu'on pouvait faire en fonction des envies des élèves aussi, et d'Isabelle Darmuzet, donc chargée de mission du parc, qui nous a accompagnés tout au long de ce projet.
C'est vous qui avez choisi les endroits sur lesquels vous avez planché avec vos élèves ?
Alors j'ai choisi le type d'endroit, dans le sens où je voulais rencontrer une exploitation en agriculture biologique. J'ai aussi choisi de rencontrer des personnes qui travaillaient dans des zones protégées. Ça oui, après ce sont des partenaires spécifiques du parc qui m'ont été proposés.
Et parmi ces partenaires, il y a Fréquence Mistral, et c'est notre ami Olivier Mouly qui est avec nous, exceptionnellement à Manosque, puisqu'il est en charge notamment de notre antenne à Castellane. Olivier, pour vous, ça a été un plaisir, je suppose, de travailler avec ces jeunes.
Ah non, c'était horrible. Non, ça a été formidable, François. Je m'attendais à que ce soit chouette, mais pas à ce point-là, parce que d'abord, j'ai trouvé une équipe, à la fois la direction du collège, les enseignantes, et ça a été vraiment formidable. Alors, quant aux jeunes élèves, hein, c'est des élèves de 5e, donc quelques élèves de deux jolies cinquièmes, les élèves de la cinquième CAD et la cinquième Lavande, vraiment des élèves formidables. C'est trouvé très éveillé et très, très sympa en plus.
Ce sont des classes qui annoncent déjà la couleur, cinquième CAD et cinquième Lavande.
Oui, la biodiversité, ça tombait bien. En tout cas, je les ai trouvés très incisifs, très plein de vitalité et c'est eux qui ont maîtrisé absolument tout ce qui s'est passé. Moi, j'ai servi d'appui technique en fait.
Alors oui, vous minimisez un petit peu votre rôle puisque vous avez quand même réalisé pas mal de montages, notamment sur ces interviews, des interviews qu'on va écouter au fur fur et à mesure de cette émission. Hein.
Oui, oui, absolument. Ben, on va écouter 4 interviews différentes avec les intervenants que les élèves auront interviewés pendant 3 sorties.
Alors, on va démarrer et on va demander aux adultes de se mettre un petit peu en retrait. On va écouter les jeunes qui ont préparé cette émission. Et il y a déjà un premier groupe avec Mila, Gabriel et Vincenzo qui devait être là mais qui n'est pas là. Je les accueille. Alors, Mila, elle est par ici. Mila, bonjour, installe-toi au micro, vas-y. Et puis on t'écoute parler de biodiversité.
Bonjour, nous sommes Mila et Gabriel en classe de 5e Lavande du collège Henri Nance d'Ops. Nous sommes allés à la ferme des Terres Longues à Moissac, Bellevue, appartement à Jean-François Cusset et Nathalie Wasserman. Nous y sommes allés 2 fois pour des chapitres différents. L'un était en rapport avec la biodiversité et l'autre sur le développement des végétaux.
Nous avons fait plusieurs ateliers comme planter des semis ou chercher quel milieu de vie préfère les animaux sauvages ou domestiques. Nous leur avons posé des questions pour mieux comprendre leur métier. Lors de nos sorties à la ferme, nous avons appris les métiers de maraîcher biologique. Le métier de maraîcher biologique, qui consiste à ne pas mettre de produits chimiques sur les légumes et faire de la polyculture. La polyculture, c'est une agriculture où on fait pousser plusieurs légumes en même temps. Mais nous allons vous présenter nos interviews.
On va écouter votre interview.
Jean-François, est-ce que la pollution a un effet sur les cultures et l'agriculture ?
La pollution, ça a surtout un effet sur les hommes. Les cultures, elles peuvent très bien continuer. C'est nous qui mangeons les légumes derrière. Donc la pollution, c'est surtout embêtant pour ce qu'on mange derrière, quoi. Parce que les légumes absorbent toutes sortes de substances diverses, quoi. Et après, c'est nous, on est au bout de la chaîne, quoi. C'est-à-dire que nous, on mange les légumes et après, on mange toute cette pollution.
Avez-vous des idées pour améliorer la qualité du sol ?
Alors ça, c'est une très, très vaste question. Nous, c'est ce qu'on fait depuis le début, hein. C'est-à-dire qu'on améliore le sol depuis le début. Ça va de la façon dont on travaille le sol, c'est la façon dont on met certains types d'engrais et pas d'autres. Quand on est en bio, c'est aussi de façon de ne pas mettre trop de produits chimiques pour ne pas tuer la vie qui est dedans. Donc c'est un vaste, vaste sujet. C'est la base de toute manière, le travail du sol, la protection des sols, l'amélioration des sols. C'est valable en culture biologique comme en culture même conventionnelle. Hein. Si t'as pas un bon sol, rarement de très bonnes cultures qui sont derrière, quoi. Pour répondre comme ça un peu plus précisément, une technique que vous avez entendu parler, c'est la couverture végétale. Théoriquement, un sol doit être toujours couvert. Ça peut être soit par des engrais verts, soit d'une prairie par exemple. Une prairie, ça couvre un sol, ça le protège. Ça peut être aussi par de la paille, par du système de mulch, ce qu'on appelle le mulching. Tu vois. Un sol, il est bien quand il est couvert. Ce qu'il craint, tu vois, c'est les excès de chaleur, de soleil, etc. Ouais, mais après, c'est pas toujours facile de faire du mulch sur des hectares et des hectares. Donc après, on compense plutôt par des cultures qui essayent de moins détruire le plus possible la vie du sol. Je sais pas si vous avez fait des ateliers vie du sol avec Isabelle. Vous avez compris qu'un sol, c'est hyper complexe. On ne sait pas ce qui se passe dans un sol. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas tout ce qui se passe dans un sol. Donc c'est vrai que plus on fait un travail en le respectant, je dirais, mieux ça vaut.
Depuis quand pratiquez-vous l'agriculture biologique ?
Depuis le début. Nous, on s'est installé vraiment en agriculture biologique. On a toujours travaillé en agriculture biologique, ce qui veut dire qu'on respecte un cahier des charges, etc. Ça veut dire 1990, la date de notre réelle installation. On a commencé un petit peu avant, mais c'était construction de serres, mise en culture, aplanissement des parcelles, etc. Donc il y avait toute une mise en forme, en place, et on a commencé dans les années 89-90. Directement en bio, parce qu'il y a des gens qui sont conventionnels, qui décident de faire du bio, on appelle ça des reconversions, ils se reconvertissent à la bio. Donc c'est très faisable. On peut faire l'inverse, mais c'est plus rare.
Nathalie, qu'est-ce que l'agriculture biologique ?
L'agriculture biologique, c'est une agriculture qui prend soin de la terre. On essaye de la maintenir vivante et notre conception de l'agriculture, c'est que c'est le sol qui nourrit la plante. Un sol vivant va donner des plantes en bonne santé, donc qui ne seront pas malades. On n'aura pas besoin de traitements chimiques pour les maintenir, pour avoir une bonne récolte et une bonne production. Pour ça, il faut aussi penser à cultiver une grande diversité de plantes et ne pas faire qu'une seule culture, parce que ça favorise l'infestation par des ravageurs.
Quels sont les problèmes de l'agriculture biologique ?
Ce sera de maîtriser le désherbage, de ne pas se laisser envahir par l'herbe, mais c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable dans la mesure où on a une exploitation à échelle humaine et où on peut, au fur et à mesure qu'on voit les herbes pousser, on résout ça par des techniques culturales un petit peu adaptées, particulières. Et puis, si on fait les choses au bon moment, il n'y a pas de souci, on maîtrise très bien la situation. Et puis aussi, il faut se dire que s'il y a quelques mauvaises herbes dans une culture, enfin ce qu'on appelle mauvaises herbes, disons que c'est des herbes indésirables. Si on, il y en a quelques-unes, c'est pas dramatique, ça empêche pas la plante de pousser. Il faut juste qu'elle ne soit pas trop développée pour ne pas concurrencer celle qu'on voudrait voir produire.
Comment traitez-vous vos plantes, sachant que vous n'utilisez pas de produits chimiques ?
Eh bien, en fait, on les traite très peu, pour ainsi dire pas. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. On a seulement des soucis d'infestation de pucerons sous les cultures sous abri. C'est une sorte un peu déjà d'artificialisation du milieu, mais bon, on est un petit peu tenu d'y avoir recours. Sinon, on a vraiment des, comme on est en zone de montagne, on aura des récoltes très très tardives. Donc, pour avoir un peu plus de précocité et avancer la récolte en saison, on utilise des cultures protégées, donc sous abri. Et là, il y a un petit peu des ravageurs, essentiellement des pucerons qui se multiplient. Et on utilise les méthodes de lutte biologique pour maintenir ces populations de pucerons à un niveau acceptable. Donc, il faut introduire des insectes qu'on appelle auxiliaires qui vont parasiter les pucerons. À la fois, on les introduit, à la fois, on fait pousser des plantes hautes. En général, c'est des fleurs qui vont abriter ces auxiliaires et leur permettre de se multiplier. Les auxiliaires, il y en a naturellement, donc on n'en introduit pas. Mais nous, on introduit surtout une petite guêpe qui est prédatrice du puceron. Et puis, il existe aussi d'autres micro-punaises prédatrices qui vivent donc toute l'année dans les tunnels, dans certaines plantes comme les soucis ou les sauges ou des fenouilles perpétuelles qu'on laisse pousser dans la serre, dans les tunnels, pour que les auxiliaires soient présents toute l'année. Et dès que les pucerons arrivent ou autres ravageurs, ils ont leur repas assuré, voilà.
La biodiversité peut être utile justement pour lutter contre les ravageurs des cultures.
Et éviter du coup l'emploi de produits chimiques, d'insecticides chimiques qui sont tout à fait inutiles. Et tant mieux, on est content de pouvoir s'en passer.
On vous a parlé de biodiversité, de haies, tu vois, ici chaque parcelle est entourée de haies. Il y a plein d'insectes, il y a plein de trucs comme ça. Donc il y a une biodiversité déjà naturelle qui nous aide. On est là pour intervenir vraiment quand le cas est un peu grave, que la plante elle s'en sort pas. Mais sinon, logiquement, si on a fait un bon choix de la variété adaptée un peu à ici, il y a quasiment pas de souci. Ça fait 30 ans qu'on est là, on a sélectionné les plantes qui marchent le mieux. Donc il y a aussi ça, c'est la sélection des plantes. Hein. Depuis 30 ans, on sait à peu près quels légumes marchent et marchent pas. Enfin, pas légumes, mais variétés de légumes.
Retour en plateau sur Fréquence Mistral, cette émission spéciale sur la biodiversité avec les élèves du collège Henri Nance à Ops, et c'était la visite du domaine des Terres Longues, une visite que tu as réalisée toi-même aussi, Gabriel. Hein ?
Oui, nous avons réalisé trois sorties, deux à la ferme des Terres Longues appartenant à Jean-François Cussé et Nathalie Wasserman, située à Moissac-Bellevue, et une dans le village d'Ops avec Dominique Rombaud.
Une sortie qui vous a plu, je suppose ?
Oui, beaucoup.
Et qui vous a instruit sur beaucoup de choses, notamment, moi j'ai retenu les insectes auxiliaires, c'est joli en plus, et puis bon, et c'est naturel en plus. On va passer la parole à d'autres élèves qui sont à côté. Alors, il y a trois jeunes filles qui sont là, Maëlle, Émilie et Margot. C'est Maëlle qui prend la suite ?
Oui, nous sommes les élèves de 5e K des 5e Lavande du collège Henri Nance. Les élèves présents aujourd'hui sont Mila, Margot, Émilie, Maëlle, Gabriel, Georgie, Louis, Lucie, Ilem et Alexandra.
Tout a commencé quand nous avons étudié en sciences et vie de la Terre l'importance de la biodiversité et son fonctionnement. Donc nous avons eu l'idée d'en faire une émission de radio. Une fois par semaine, jusqu'au jour J, nous nous retrouvions pour préparer ce projet.
Notre projet est de faire comprendre aux auditeurs l'importance de la biodiversité dans la vie et dans le système. Pour comprendre son importance, nous avons fait plusieurs sorties et nous avons rencontré plusieurs personnes qui s'y intéressent. Celui-ci est parrainé par le Parc Naturel Régional du Verdon.
Et on va écouter justement la référente du Parc Naturel Régional du Verdon, c'est Isabelle Darmuzet que vous avez rencontré, les jeunes filles là, hein. C'est bien ça ?
Oui.
Un personnage étonnant et qui a participé avec Olivier notamment à monter ce projet radio particulier. On l'écoute tout de suite.
Isabelle Darmuzet, quel est votre rôle dans le Parc Naturel Régional du Verdon ?
Je suis chargée de mission éducation, ça veut dire que je monte des projets avec les habitants du parc. Ça peut être d'aussi bien travailler avec les scolaires, mais aussi les associations, les professionnels. Monter un projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, donc avec des scolaires, c'est faire des sorties pédagogiques sur le territoire du parc. Et sinon, avec les adultes, par exemple, on peut organiser des chantiers pédagogiques. Ces chantiers pédagogiques peuvent être sur le patrimoine bâti. C'est-à-dire que vous avez dans votre commune un lavoir à restaurer. On va vous aider à restaurer ce patrimoine et ça va être les habitants de la commune qui vont venir restaurer le lavoir, par exemple.
Quel est le rôle du parc naturel régional du Verdon ?
Un parc naturel régional, donc nous, en fait, on est un syndicat mixte. Donc ça veut dire que ce sont 46 communes qui ont décidé de se rassembler et de travailler sur différents points pour qu'on ait une bonne qualité de vie rurale, pour que tous les habitants de ce territoire, ça se passe bien pour eux, aussi bien sur le plan professionnel que sur la vie quotidienne de tous les jours, et qu'on garde un environnement d'habitation, de nature, de loisirs qui soit agréable et qui reste rural et préservé. Du coup, on va faire toutes sortes d'actions qui vont aller dans le sens de ce territoire pour le préserver.
Quel impact a le parc sur la biodiversité ?
C'est compliqué parce que pour avoir de l'impact sur la biodiversité, ça prend du temps. Ça se mesure sur plusieurs années et comme les actions sont très différentes, on ne sait pas exactement lesquelles vont être les plus efficaces. Pour savoir exactement quel est l'impact, c'est compliqué. Par contre, on sait quel type d'action il faut mener pour favoriser la biodiversité. Et pour cela, c'est pas que les personnes qui travaillent au parc qui vont les mener, c'est on va aussi travailler avec des agriculteurs, avec des bûcherons, avec des entreprises. Tout ça pour essayer de travailler sur les techniques qui vont favoriser la biodiversité.
Depuis combien de temps travaillez-vous au parc régional du Verdon ?
J'ai commencé au parc régional du Verdon le 1er avril 2010. C'était pas un poisson d'avril, donc ça fait 9 ans et un mois que je travaille au parc du Verdon.
Donc bonjour, nous sommes Margot, Maëlle et Émilie et nous avons rencontré Isabelle à la ferme des Terres Longues. Elle travaille au parc naturel régional du Verdon. Le parc protège tous les environnements et donc il préserve la biodiversité. Et on a interviewé Isabelle afin de savoir comment sauver la biodiversité et surtout quel est le rôle de celle-ci.
Le parc a financé tous nos projets en partenariat avec la ferme et Dominique. C'est grâce à lui que nous avons pu travailler sur la biodiversité et vous expliquer ce que nous avons appris. Lors des sorties à la ferme, Isabelle nous a fait faire deux activités sur la biodiversité, une sur l'histoire de la tomate et une autre sur la biodiversité dans les sols. Nous avons appris beaucoup de choses sur la biodiversité.
Nous allons vous présenter des interviews pour vous faire comprendre qu'il est important de préserver les écosystèmes afin d'avoir une meilleure biodiversité. Le parc ne peut pas tout faire, des changements sont nécessaires. Chacun doit participer à améliorer la biodiversité et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui.
Moi, j'ai envie de leur poser des questions à ces jeunes. Vous avez rencontré donc un organisme un peu particulier qui est pas un organisme scolaire, mais qui pourtant travaille avec des lycéens, des collégiens et des écoliers, le parc naturel régional du Verdon. Qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre avec justement Isabelle Darmusée?
Margot. On a appris comment protéger tous les environnements protégés, comment faire pour améliorer la vie rurale des habitants qui vivent sur ce parc.
Est-ce que par hasard, dans votre tête, vous allez bientôt choisir un métier, hein, en cinquième c'est un petit peu tôt, mais vous vous imaginez à la place par exemple d'Isabelle, plus tard ?
Non, pas forcément, parce que c'est intéressant, mais on avait déjà pensé à d'autres projets avant de faire cette sortie, ce projet.
Mais ça vous a quand même intéressé de voir le travail qu'elle faisait, de savoir qu'on peut faire pour protéger l'environnement ?
Elle fait un travail très très bien, parce que grâce à elle, la vie des gens, elle s'améliore.
C'est bien, c'est une bonne réponse, ça me convient. Donc vous ne remplacerez pas peut-être Isabelle Darmusée, mais il y a quand même une petite graine qui a été plantée, c'est le cas de le dire, et qui risque d'être florissante et importante, intéressante. La troisième partie de cette émission, on a une autre interview, alors je ne sais pas qui doit la présenter très exactement. C'est Alexandra, je crois. Alexandra, Ilham et Lucie, c'est ça ?
Alors, oui.
Ilham, voilà, c'est toi qui es juste à côté de moi. Vas-y.
Bonjour, nous sommes Ilham,
Alexandra
et Lucie.
Nous sommes des élèves de la 5e 4 du collège Henri Nance d'Ops
et nous avons rencontré Dominique Rambaud à l'occasion du projet sur la biodiversité avec notre professeure d'SVT, Madame Serine.
Dominique Rambaud est une écologue depuis une vingtaine d'années. Elle travaille comme animatrice chez Nature à 2000 pour toucher un maximum de personnes pour sauver la biodiversité.
Lors de la sortie dans les hauteurs d'Ops, Dominique Rambaud nous a donné des conseils et des petites actions à faire tous les jours qui peuvent améliorer notre quotidien.
Et comme Dominique nous l'a dit précisément, Elle touche un maximum de personnes pour essayer de faire quelque chose pour sauver la biodiversité.
Nous remercions Dominique Rambaud de nous avoir consacré de son temps à nous apprendre des choses. Nous vous laissons avec l'interview.
Dominique Rambaud, chargée mission Natura 2000 pour le syndicat mixte Provence Verte Verdon.
Quel est votre métier et qu'est-ce qui vous a poussé à le faire ?
Je suis à l'origine ingénieure écologue, donc j'ai une formation universitaire sur l'environnement. Ce qui m'a poussé à le faire, c'est que j'avais déjà un intérêt à étudier la nature, à faire un travail assez proche de la nature. Je m'intéressais déjà à votre âge, aux animaux et aux plantes. J'avais pas envie non plus de travailler toujours dans un bureau. Et puis, je m'intéressais particulièrement aux questions d'écologie et d'environnement. J'ai fait des études universitaires qui portent sur la protection de l'environnement et sur également la façon dont on peut concilier nos activités dans le milieu naturel et la préservation de cette nature.
Depuis combien de temps faites-vous ce métier ?
Je fais ce métier depuis une vingtaine d'années. J'ai travaillé dans une association de protection de la nature et puis maintenant je travaille pour une collectivité, le syndicat mixte Provence Verte Verdon, qui se trouve sur Brignoles.
Qu'est-ce que Natura 2000 ?
Natura 2000, c'est un programme de conservation de la biodiversité à l'échelle européenne. Le réseau Natura 2000, c'est le plus grand réseau de sites protégés qui concerne 26 000 sites protégés dans toute l'Europe. On a à peu près 1 700 sites en France et 30% de notre région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, se trouve dans le réseau Natura 2000. Donc c'est très important pour notre région. Et on a une telle surface en Natura 2000 parce qu'on a une très grande biodiversité dans cette région qui concerne en fait le domaine biogéographique méditerranéen. On a de la biodiversité du milieu marin. On a également la biodiversité du milieu alpin. Et on a également des espèces qui sont plus continentales dans notre région. Du fait qu'on a tous ces domaines biogéographiques, eh bien, on a une grande biodiversité, donc une grande responsabilité à l'échelle nationale et européenne sur la conservation de la biodiversité dans notre région.
Quel est votre rôle dans la biodiversité ?
C'est d'accompagner les acteurs sur le site Natura 2000 pour qu'ils prennent en compte dans leurs activités la biodiversité. J'accompagne les agriculteurs, j'accompagne les forestiers, j'accompagne les gens qui construisent les routes, qui entretiennent les ponts. J'accompagne les communes pour la gestion des villages et la prise en compte de la biodiversité. J'accompagne aussi les projets d'accueil du public dans la nature, les promeneurs, les chasseurs, tout type d'activité qui peut avoir une incidence ou un rôle positif pour la biodiversité.
Quel est le lien entre Natura 2000 et le parc naturel régional du Verdon ?
Le parc naturel du Verdon concerne beaucoup plus de communes et une zone différente du site Natura 2000 dont je m'occupe. Le parc s'intéresse à la biodiversité, bien sûr, mais également au paysage, à la conservation des monuments historiques, aux activités économiques, pour dynamiser les activités économiques qui mettent en valeur tout ce patrimoine, le patrimoine naturel et le patrimoine historique. Alors que Natura 2000 s'intéresse uniquement à la biodiversité.
Quel public touchez-vous ?
Toutes sortes de publics, tout public qui peut fréquenter, habiter, occuper les espaces naturels. Je m'intéresse bien sûr aux agriculteurs, aux forestiers, à tous les habitants et puis aux enfants. J'interviens dans les écoles, que ce soit dans les collèges ou dans les écoles primaires, pour expliquer la biodiversité des villages qu'ils habitent, puisqu'on parle souvent dans les médias, à la télévision, au cinéma, de la biodiversité qui se trouve loin de chez nous. Mais en fait, on a des espèces extrêmement rares, extrêmement intéressantes aussi chez nous. Et il faut mieux les connaître pour arriver à mieux les préserver. Ce matin, donc sur le premier arrêt, on a observé le développement de l'urbanisation autour du village d'Ops. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce développement et son impact sur la biodiversité ?
Ben, on a observé qu'il y avait des maisons et avant qu'il y ait toutes ces maisons, il y avait une prairie. Et quand nous avons construit les maisons, ça a diminué la biodiversité qu'il y avait avant dans cette prairie.
Et il faudrait rajouter les maisons plus près du village pour que la biodiversité elle se développe. À l'extérieur, il faudrait qu'il y ait plus de biodiversité et rapprocher les maisons plus près du village.
Parce qu'ils utilisent des voitures et du coup ça pollue.
Qu'est-ce que vous avez vu d'autre ce matin ?
Sur les poteaux de France Télécom, il y avait des bouchons parce que avant il y avait des oiseaux qui allaient se nicher dans les poteaux et ils n'arrivaient plus à s'agripper à l'intérieur et ils n'arrivaient plus à sortir et ils mouraient. Du coup, il y avait des oiseaux morts entassés dans les poteaux et on a ordonné à France Télécom de mettre des bouchons pour plus qu'ils y rentrent.
Nous avons observé deux oliveraies ce matin. Quelle est la différence entre ces deux-là ?
Dans une oliveraie, il y avait de l'herbe non labourée, alors que dans l'autre, il y avait de la terre labourée. Et on nous a dit que l'oliveraie qui n'a pas été labourée avait plus de biodiversité, alors que celle qui a été labourée, elle en avait moins.
L'oliveraie labourée, l'embêtant, c'est que quand il pleut, ça fait de la boue et du coup, ça enlève de la terre et ça rajoute des cailloux. Mais on la laboure pour plus qu'il y ait de mauvaises herbes et qu'il attaque les oliviers.
Qu'est-ce que le lichen ?
Est-ce que quelqu'un répond ?
Sur la roche, il y a du lichen et le lichen est sensible à la pollution.
Un lichen, c'est un champignon ?
Le lichen est un mariage entre un champignon et une algue qui après recouvre toute la roche et la roche devient grise.
Et qu'est-ce que le mycorhize ?
Le mycorhize est sur les chênes qui après vont donner des truffes.
C'est le filament du champignon.
Le mycorhize, ça correspond en fait à une partie du champignon qui se développe sur les racines d'un arbre. Et donc la truffe est un champignon qui intègre des mycorhizes. Et la truffe est en fait le fruit du mycorhize, le fruit de ce champignon qui est en symbiose avec les racines du chêne.
Quelle est la différence entre les chênes verts et les chênes blancs ?
Les feuilles des chênes verts, elles sont en pic au bout. Et les chênes blancs ont des feuilles plutôt arrondies comme des doigts.
Les chênes blancs, ils perdent leurs feuilles en hiver, alors que les chênes verts, non.
Comment pouvons-nous faire pour préserver la biodiversité et faire des activités de pleine nature ?
On organise les activités de pleine nature pour préserver la biodiversité.
Il faut effectuer des activités dans des endroits faits exprès. Il y a des endroits où on peut mettre des jeux de pleine nature et d'autres endroits où on peut pas pour préserver la biodiversité. Les endroits où on peut pas, c'est surtout les vieilles forêts où il y a le plus de biodiversité.
Comment peut-on préserver des espaces de forêt âgés ?
En évitant de couper les arbres.
Au bout d'un moment, on sera obligé de les couper comme ils seront vieux et morts.
On peut préserver des espaces de forêt âgés et exploiter d'autres espaces forestiers.
La biodiversité des vieilles forêts est extrêmement importante et de plus en plus rare parce que on utilise le bois des forêts pour toutes sortes d'usages qu'on a vu ce matin, pour faire du papier, pour faire des matériaux de construction, d'isolation, pour faire des ustensiles de cuisine, pour faire des parquets, pour se chauffer, pour faire de l'électricité. Donc les forêts ont vraiment un usage multiple. Par ailleurs, en zone méditerranéenne, les forêts brûlent parfois. Il y a des feux qui sont déclenchés à cause de nos activités humaines. Et au cours de notre histoire, donc, on a autour de nous de moins en moins de vieilles forêts. Et donc, toute la faune et la flore qui se développent dans les vieux boisements ont tendance à disparaître. De plus en plus, dans les espaces pour protéger, dans les sites Natura 2000, dans les parcs naturels, on essaye d'organiser le maintien de vieux arbres, le maintien de vieilles forêts, qui, on l'espère, pourront être préservées pendant des centaines d'années pour les générations futures et pour maintenir ces espèces caractéristiques des vieilles forêts, qu'elles ne disparaissent pas de notre environnement.
Dominique Rombaud qui est chargé de mission Natura 2000 et je rappelle que nous sommes en direct à Manosque, Fréquence Mistral, pour parler de la biodiversité justement. C'est le sujet de cette émission et avec évidemment un leitmotiv, c'est il faut sauver la biodiversité. Et pour cela, il y a trois jeunes filles qui ont participé à l'interview justement de Dominique Rombaud. Il s'agit d'Alexandra, Ilem et Lucie. Lucie, c'est toi qui vas parler en premier, je crois. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette interview d'Isabelle Rombaud ? De Dominique Rombaud, pardon.
Nous avons retenu que comment on peut aider la biodiversité tout en faisant des petites actions.
Elle vous a dit par exemple l'importance du bois dans notre région, en Méditerranée.
Oui.
Vous le saviez, ça, vous aviez l'idée déjà de cette importance, Alexandra ?
Non.
Ben, pas forcément, parce qu'on savait quelques trucs, mais elle nous a fait découvrir de nouvelles choses que l'on ignorait peut-être.
Quoi donc, par exemple ?
Ben, je sais pas, chaque personne est différente, et peut-être que des personnes ne savaient pas certaines choses, alors que d'autres le savaient.
Par exemple, le bois, on s'en sert pour faire des parquets, mais aussi pour se chauffer, pour faire des maisons.
Oui, personnellement, je le savais, mais comme je l'ai dit précisément tout à l'heure, personne ne sait tout.
Et toi, Ilem, qu'est-ce que tu vas retenir de cette rencontre avec Dominique Rombeau ?
Qu'il faut sauver la biodiversité et pas la détruire encore plus qu'elle est détruite.
Ouais, vous êtes attentif à ça, votre génération, vous, élève de 5e par exemple. Alexandra, tu es attentive à ça ?
Oui.
Ouais, tu vas faire attention ?
Oui.
Tu vas acheter des pesticides ou pas ?
Ben non, puisque justement, bon. C'est pas bon pour la biodiversité. Ça fait fuir certaines espèces d'animaux de...
Ça ne les fait pas fuir, ça les tue.
Oui, ça les tue, ça les tue. Du coup, ça diminue la biodiversité à l'endroit même.
Et toi, Lucie ?
Oui, je suis déjà très attentive. Comme déjà chez moi, on recycle, on réutilise des choses. On essaye de ne pas jeter n'importe quoi n'importe où.
C'est bien, donc on sent que vous êtes plutôt motivé pour protéger notre planète et l'utiliser de manière intelligente. Il y a 3 garçons qui nous ont rejoints, il y a Georgie, Louis et Gabriel. Ils sont parmi nous. Alors quel est le sujet que vous allez évoquer tous les 3 ?
Georgie. On va parler de la biodiversité.
Oui, je m'en doute, mais sur quoi précisément ?
On est là pour vous parler de la biodiversité. On a fait un montage de toutes les questions de la biodiversité. C'est beaucoup mieux que si on était en cours, car on était sur le terrain et on a fait plein d'activités.
C'est-à-dire que vous avez demandé aux gens ce que ça représentait pour eux, le terme biodiversité, c'est ça ?
Oui.
Et Louis, tu as participé aussi à ce travail ?
Oui, j'ai participé, j'ai trouvé ça assez cool.
Gabriel ?
On a posé à toutes les personnes la même question, donc quelle est la biodiversité en quelques mots pour vous ?
Et on va écouter ses réponses.
Qu'est-ce que la biodiversité pour vous en quelques mots ?
Je dirais que c'est un mot un peu à la mode en ce moment, mais qui est vachement important. Vous êtes informés comme moi, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Vous entendez parler de la disparition de certaines espèces, que ce soit des espèces végétales, des oiseaux, etc. etc. Par notre présence humaine, par notre économie, les pollutions, etc., etc. Il y a plein d'espèces animales qui disparaissent. La diversité, elle existe à l'état naturel, quoi. Mais c'est parce qu'on prélève certaines choses et il y a certains animaux qui disparaissent définitivement de la planète. C'est tout un travail de préservation. Alors pour résumer la biodiversité, comment dire ça ? Moi, je dirais c'est tout ce qui nous entoure, hein. Tout ce qui est vivant, hein, de la bactérie à l'oiseau, tu vois. C'est ça la biodiversité, quoi.
Qu'est-ce que la biodiversité pour vous ?
La biodiversité pour moi, c'est l'ensemble de toutes les espèces vivantes, aussi bien animales que végétales, qui composent notre environnement, y compris nous.
Et oui, car l'homme est une espèce animale qui compose l'environnement et qui lui fait du mal. C'est pour ça que la biodiversité est menacée actuellement. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une génération de collégiens, eh bien, qui est particulièrement sensibilisée à ces questions. Chloé Serine nous a rejoint. C'est l'enseignante qui s'est occupée de ce dossier. Chloé, vous avez réussi à mobiliser, à motiver vos élèves sur ces questions?
Oui, et c'est même très surprenant de voir qu'en fait les élèves arrivent avec beaucoup de connaissances à ce sujet. Ils sont très sensibilisés sur ces thématiques, ça les touche en fait, ils aiment ça. Et quand on rentre dans le détail, ils commencent à devenir plus mal à l'aise en fait. Pour eux, la biodiversité, et c'est normal, c'est un terme qui est très très vague, et il faut bien plusieurs mois de travail dessus pour qu'ils commencent à concevoir précisément ce que c'est, quelles actions on peut faire. Et ce genre de projet où on va voir la biodiversité sur le terrain pour de vrai, concrètement, et c'est cool, comme disait Louis,
oui.
Ça les aide à assimiler ces notions-là complexes et ces actions concrètes qu'on peut faire sur le terrain.
Alors on l'a vu, il y a une de vos élèves, Lucie, qui parlait par exemple de tri des déchets, des choses comme ça, du recyclage. On sent que dans les familles, il y a aussi une motivation.
Alors dans certaines familles, effectivement, c'est un débat qui n'est pas inintéressant de faire en classe. C'est pas du tout le cas de la totalité des familles du territoire, loin de là, comme ailleurs. Pas pire, pas mieux. Mais effectivement, c'est un débat intéressant à avoir en classe et les élèves ont, à cet âge-là, très envie de débattre avec leurs camarades sur ces thématiques-là.
Alors vous-même, Chloé, vous êtes enseignante en quelle matière dans votre collège ?
SVT, donc sciences de la vie et de la terre, évidemment.
Vous parlez régulièrement à vos élèves depuis plusieurs années de la biodiversité, des pesticides, du dérèglement climatique par exemple?
Alors à chaque occasion qu'il y a dans mes obligations qui sont celles des programmes effectivement, mais aussi dans, donc ça peut concerner un chapitre de plusieurs mois avec les cinquièmes, ça va concerner un petit chapitre en quatrième, ça va aussi concerner un enjeu qui est le changement climatique en troisième par exemple, mais aussi dans des occasions en dehors des cours. Donc on peut avoir des clubs environnement, des projets sur toute l'année avec des élèves cette fois volontaires qui viennent sur du temps hors scolaire pour discuter de ça.
Et puis je suppose que les élèves aussi regardent par exemple la télévision avec ces images terribles des personnes qui migrent parce qu'il fait trop chaud, parce qu'il y a de la sécheresse ou des incendies de forêt, des choses qui sont terribles, des ouragans, des inondations, etc. La fonte des glaces, enfin bref, tous ces sujets que vous évoquez d'ailleurs en classe aussi, hein, Alexandra.
Oui, mais après, ce qu'on peut voir aussi à la télé, c'est dans la mer, le nombre de déchets qu'il y a, il y en a des tonnes et des tonnes. C'est assez choquant de voir que, ben, en fait, c'est aussi pollué que ça parce qu'on peut pas avoir une, on peut pas savoir exactement combien il y en a, mais en regardant la télé, on peut en voir qu'il y en a quand même beaucoup.
Vous avez remarqué que dans la télé, à la télévision justement, parce qu'il y a des images, mais même dans la presse écrite ou même à la radio, on parle de plus en plus de ça. On parle de ce continent plastique qui existe en Méditerranée, par exemple. On parle, je l'ai dit tout à l'heure, des migrations dues au climat, des personnes qui s'en vont d'endroits, notamment en Afrique, parce qu'il y fait trop chaud. On n'arrive pas à vivre, on n'arrive pas à cultiver des légumes et donc on n'arrive pas à vivre. Il y a une conscience qui est en train de se faire là. Maëlle.
Margot.
Non, Margot, oui, vas-y.
Les gens commencent à prendre conscience que après avoir fait tout le gâchis sur la terre, il faut changer les choses et que c'est peut-être c'est pas encore trop tard, alors qu'il reste un petit peu de temps pour changer les choses. Alors, c'est maintenant.
Tu crois pas que tu es peut-être un petit peu optimiste là-dessus? Tu crois que tout le monde trie ses déchets? Tu crois que tout le monde fait attention à pas verser n'importe quoi dans la nature?
Non, mais les gens commencent à prendre conscience.
Oui. C'est une prise de conscience, ça démarre. Oui, Chloé, vous vouliez intervenir.
Oui, ça c'est typiquement un constat d'élèves qu'on voit, c'est que les élèves vont parfois beaucoup plus vite que nous, que les adultes, sur ce genre de thématique, parce que ça les prend par les sentiments en fait.
On ne va pas s'en plaindre. Hein.
Tout à fait.
Certainement pas.
C'est pour ça que cette jeune génération là qui a envie d'agir, de pouvoir lui donner des moyens de s'exprimer, comme venir faire une émission radio pour donner leurs avis à leurs camarades et aux auditeurs, c'est vraiment un super projet pour nous.
Alors justement, on va leur en parler de la radio, là, parce que c'est quand même leur première expérience, et nous on est ravis évidemment de les avoir reçus ici même. Qui est-ce qui veut me parler de cette expérience? Émilie.
C'est assez stressant, parce que déjà, quand on lance les interviews et qu'on nous dit qu'il reste plus que 10 secondes, on stresse, on devient tout rouge, on commence à bégayer et on a chaud.
Ben oui, mais c'est notre quotidien, nous ici, hein, 10 secondes, ben oui, c'est 10 secondes, il faut faire attention. Après, Gabriel peut-être?
Mais juste avant de parler au micro pour la première fois, on stresse un peu, on a peur. Après, ça passe beaucoup mieux. On parle beaucoup plus aisément. Et
Alexandra.
Comme il a dit Gabriel, c'est la première fois qu'on le fait. On ne sait pas forcément ce qu'il faut pas dire, ce qui est intéressant, ce qui est moins. C'est quand même assez impressionnant, on va dire. Voilà.
Ouais, c'était c'est bien senti tout ça. Margot, tu voulais rajouter quelque chose?
Étant donné qu'on s'est beaucoup préparé entre midi et deux, avec Olivier Mouly, avec Madame Serine, on a travaillé sur les choses qu'on voulait dire. Et en fait, on se rend compte que quand on est ici, on est un peu hors contrôle, qu'on ne sait plus trop quoi faire et qu'on cède de ce qu'on a déjà vu, et heureusement qu'on les a déjà vues, les choses qu'on a apprises.
C'est-à-dire que vous êtes un peu affolé par rapport à l'environnement, le micro, les micros, les casques, tout ça?
On pense qu'il faut faire le mieux pour que les gens prennent conscience, alors on essaye de mettre en œuvre tout ce qu'on a appris durant toutes les séances qu'on a faites pour cette émission.
Si je peux te rassurer, c'est mission réussie. Hein. Donc, pour moi, il n'y a pas photo. Vous avez réussi à transmettre un message un peu particulier. Lucie, tu voulais rajouter quelque chose?
C'est vrai qu'on s'est beaucoup... On a beaucoup travaillé dessus. On s'était fait une idée sur l'émission, mais quand on est arrivé, c'était tout l'inverse. Du coup, on ne savait pas comment trop réagir.
Mais c'est bien, généralement, tu sais, même les adultes sont comme ça, hein. Donc je vous rassure, vous inquiétez pas, on a l'habitude de ce genre de choses. Alexandra.
Mais après, on nous a essayé de nous rassurer, et en disant, bah, de toute façon, c'est que des paroles, mais c'est pas des paroles en l'air, c'est vraiment important. Et ce qu'on dit, c'est on a travaillé beaucoup dessus, et on aimerait bien que pas mal de personnes se rendent compte que c'est déjà un gros travail, c'est très, très important de ce qu'on parle. Donc c'est pour ça.
Allez, on va vous demander de conclure. Émilie, tu avais envie d'intervenir.
Ben, en plus, en venant ici, on se dit, bon, ça va, on a déjà tout appris, c'est qu'une conclusion de ce qu'on a appris, mais on ne sait pas si ce qu'on va dire, les gens, ça va les intéresser. Quand on a écouté nos interviews avant, on a tous détesté notre voix à la radio.
Ouais, ça c'est commun, ça, c'est très courant, hein, donc c'est pas un problème. Mais en tout cas, moi je peux vous dire que dans vos interviews, il y a des choses intelligentes qui sont sorties, et ça c'est bien. Gabriel.
Avant d'aller dans une ferme biologique, on se dit tout ça, mais maraîcher biologique, c'est simple, on fait pousser des plantes sans mettre pesticides. Et en fait, on se rend compte que c'est assez compliqué et qu'on... Les personnes ont beaucoup, beaucoup de terre. On se dit, bah, comment ils font pour faire ça à longueur de journée? Et on se rend compte que bah, c'est des personnes qui travaillent dur et qu'il faut essayer de ne pas ruiner en mettant des pesticides partout.
Et qu'ils y réussissent en même temps, et c'est compliqué. Alors Olivier, on va peut-être conclure. Vous demandez-vous votre avis, puisque vous avez suivi ce dossier depuis le début. Comment vous les avez trouvés, nos jeunes, là?
Oh bah, formidable, aujourd'hui, hein, vous voulez dire. Eh bien, exactement ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire comme nous, vous-même et moi-même, François, tout rouge et ayant chaud. Non, il fait un peu chaud, c'est vrai qu'on est nombreux. Non, ils ont été très bien, je pense qu'ils ont été effectivement, elle a très bien dit, Margot, hein, on est le côté hors contrôle, c'est-à-dire qu'on est très surpris par le direct. Les choses se déroulent pas exactement dans l'ordre...
C'est pas très grave, on a dit vraiment l'essentiel.
L'essentiel a été dit. La seule chose qu'on peut peut-être, je trouve, qu'on puisse regretter, c'est le fait qu'on n'ait pas eu le temps plus de décrire ce qu'ils ont vu réellement sur le terrain, parce qu'on a été dans des endroits formidables, ils ont été dans des champs d'olivier, ils ont vu vraiment sur le terrain ce qu'était, en parlant du bois, ce qu'était qu'un chêne truffier, etc. C'était vraiment une expérience formidable et je tiens beaucoup à féliciter aussi Chloé pour l'énorme travail qu'elle a fait.
Il y a des intervenants magnifiques aussi, hein, ces agriculteurs biologiques qui font un travail remarquable et avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de finesse, quoi, qui arrivent à faire passer des messages. Chloé, satisfaite de vos élèves?
Tout à fait, et c'est peu dire.
Oui. Vous les avez découverts quelque part, là, ici à la radio?
C'est l'avantage des projets qui sortent un peu des quatre murs de la classe, c'est qu'on découvre les élèves dans leur personnalité et dans aussi ce qui les intéresse le plus ce moment-là, et ce qui les motive dans leur période de vie un peu compliquée qu'est l'adolescence.
Et je peux vous dire que nous aussi, on les a découverts ici et on a apprécié cette dynamique aussi bien que vous avez impulsé vous-même, mais aussi avec Isabelle, avec Dominique et avec Olivier, bien sûr. Et d'avoir planché sur ce dossier d'avenir, il faut sauver la biodiversité, et je crois qu'ils sont convaincus de tout ça et qu'ils ont réussi à faire passer un message, et ça c'est bien, et qu'on ait réalisé nous aussi l'interface entre ces jeunes et puis nos auditeurs, c'est une belle chose. Donc je tenais à vous remercier, à vous saluer, à saluer tout le monde aussi, hein. Bravo les enfants, vous avez fait un beau travail, continuez, vous êtes les citoyens de demain, peut-être même d'aujourd'hui, et continuer à faire en sorte de protéger notre planète. Nous, en tout cas, on va faire en sorte aussi de faire passer ce message. Merci encore, Frédéric, d'avoir été parmi nous. Frédéric Julien, vous êtes le principal d'un fort beau collège à Ops, et avec une belle dynamique et une citoyenneté importante sur le territoire. Et ça va marquer vos élèves, je pense, ce type d'expérience. Merci aussi, Olivier, évidemment.
Plaisir.
Évidemment. Et puis, enfin, merci à James qui a réalisé la régie. Vous allez pouvoir retrouver cette émission sur notre site internet. Dans un instant, les infos nationales et internationales de RFI. Et puis, restez à l'écoute de Fréquence Mistral. Merci, James. À bientôt. Et bravo, les enfants.
Merci et bonne journée sur Fréquence Mistral.